vous tous. Dans les Écritures, nous retrouvons plusieurs paraboles qui se réfèrent au royaume de Dieu. Et j'aimerais que nous regardions un extrait de la parabole se trouvant dans l'Évangile de Luc au chapitre 19. Nous allons nous reporter à l'Évangile de Luc et au chapitre 19. Alors que Jésus quittait Jéricho en compagnie de ses disciples pour monter à Jérusalem peu de temps avant sa dernière Pâque de l'an 31 de notre ère, il y avait un mouvement d'excitation parmi ceux qui le suivaient comme nous allons le lire. Donc, Luc 19, nous allons lire les versets 11 à 13. Le verset 11. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Alors, de là, l'agitation des gens qui étaient en effervescence, si on veut. Il y avait hâte que le royaume de Dieu soit établi selon leur idée et que le peuple juif redevienne une nation importante. Verset 12. Et dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. Et vous savez, cet homme de haute naissance, c'est le Christ. Il s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Alors, il donna 1 mine par serviteur. Cette parabole montrait que le royaume de Dieu ne serait pas établi immédiatement, mais que le Christ devait se rendre au troisième ciel vers son Père. Mais avant de partir, le Christ confie 1 mine, l'équivalent en salaire de 100 jours de travail. Il confie 1 mine à 10 serviteurs en leur disant spécifiquement de faire valoir cette mine. Que représente cette mine pour les chrétiens? Je vous cite maintenant l'incroyable potentialité de l'homme de M. Armstrong à la page 86. Il nous dit ceci, « Les mines représentent le degré initial du Saint-Esprit donné lors de la conversion. À mesure que la personne engendrée par l'Esprit est conduite par le Saint-Esprit et qu'elle marche avec l'Esprit de Dieu, selon le degré de compréhension qui lui est donné, et croit ainsi dans la connaissance spirituelle, le flot de l'Esprit de Dieu coule à travers elle, s'accroît. » Fin de citation. La parole des mines montre que chaque serviteur fidèle sera récompensé en fonction de son zèle et de sa diligence manifestée pendant l'absence de Christ. Pour le serviteur infidèle, si vous lisez la suite de la parabole, il est jeté dans les ténèbres, comme c'est indiqué dans Matthieu 25 et au verset 30. Maintenant, que se passera-t-il pour ceux que Dieu a appelés peu avant son retour au temps de la fin? Nous allons voir ensemble la parabole des 10 vierges qui nous éclaire sur ce sujet. Et le but de mon sermon est de comprendre ce qui nous concerne, vous et moi, dans la parabole des 10 vierges avant le retour de Christ sur la terre. Et le titre du sermon, Comprenons la parabole des 10 vierges. Comprenons la parabole des 10 vierges. Je dis comprenons parce qu'elle s'adresse à moi et à vous. La parabole que nous allons lire dans quelques instants est un avertissement pour tous les chrétiens de toutes les époques, mais aussi sur les conditions qui existeront à la fin des temps. Les personnes les plus concernées sont celles de la génération qui verra le retour de Jésus-Christ. Donc, je répète, vous et moi, si nous vivons encore quelques années. La Bible déclare que Dieu a caché au monde la compréhension des Écritures, mais il nous la révèle par son Esprit pour ceux qui l'appellent et, bien important, pour ceux qui lui obéissent. Et je vous donne ici une référence, si vous voulez la prendre en note, 1 Corinthiens 2, les versets 7 à 16. 1 Corinthiens 2, versets 7 à 16. Alors, ceux qui sont disposés à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu chercheront à comprendre la véritable signification des Écritures et s'efforceront de les mettre en pratique. De les mettre en pratique avec l'Esprit de Dieu en eux. D'ailleurs, l'apôtre Jacques, le frère de Christ, écrivit dans Jacques 1, verset 22, je vais vous le citer, pas besoin de vous reporter. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ce principe de mettre en pratique la parole de Dieu, revêt une importance capitale dans la croissance de notre caractère et la véritable connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, que pouvons-nous apprendre et mettre en pratique de la parabole des 10 vierges? Quel enseignement utile me concernant et vous concernant pouvons-nous en retirer et mettre en pratique? Notez que la parabole des 10 vierges a un lien avec la longue prophétie du mont des Oliviers de Matthieu 24, concernant entre autres les derniers jours que nous voyons s'accomplir à notre époque. Nous allons y prendre quelques versets qui mettent la table pour la parabole des 10 vierges. Alors, si vous voulez bien, nous allons nous reporter à l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, et nous allons lire premièrement le verset 36. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour, ici il s'agit du jour du retour de Jésus-Christ sur la terre. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus a dit qu'il reviendrait au moment approprié, et ce moment sera choisi par Dieu le Père, que nous soyons prêts ou pas. Et tous les savants calculs sur la date exacte du retour du Christ n'intéressent pas le Dieu Tout-Puissant. Ce qui l'intéresse est notre implication totale à lui donner notre vie et à mettre en pratique sa parole, ou dit autrement, à mettre en pratique et faire sa volonté, en laissant le Christ vivre sa vie en nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit, un principe énoncé dans Galates 2:20 que vous connaissez très bien. Voilà ce qui compte aux yeux de Dieu. Reprenons quand même Matthieu 24, nous allons lire les versets 26 à 39. Pour ce qui est du retour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Remarquez, le Christ dit qu'il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans les temps de la fin, la vie semblera suivre son cours normal, avec, je dirais, des soubresauts ponctuels qui peuvent certainement se produire. Et comme nous le voyons autour de nous, chacun vague à ses occupations de routine, sans se douter des malheurs qui s'abattront bientôt sur eux. Plusieurs ne comprendront pas et ne prendront pas garde aux avertissements de Dieu. D'autres auront le sentiment que quelque chose se prépare, mais ils choisiront, ou figurer, de s'enfouir la tête dans le sable, préférant ne pas penser à l'avenir. Seul un petit nombre comprendra la signification des événements prophétiques, et ce petit nombre sera prêt. Où nous situons-nous dans cet échantillonnage? Je répète, où nous situons-nous dans cet échantillonnage? Nous allons lire maintenant Matthieu 24, les versets 42 et 44. Matthieu 24, versets 42 et 44. Voici ce que Christ disait à ses disciples et ce qui nous concerne aujourd'hui. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous savez, l'apôtre Pierre nous avertit également dans sa deuxième épître de quelque chose de similaire. Je vais vous le citer aussi, vous n'avez pas besoin de vous y reporter. Pierre nous disait, « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant où est la promesse de son avènement. » Vous pouvez prendre comme référence 2 Pierre 3, versets 3 et 4. 2 Pierre 3, versets 3 et 4. Les gens vont nous dire, vous dites que le Christ va revenir, que le malheur va nous frapper, et vous tirez ça d'un vieux livre qui est dépassé. Il y a toujours eu des guerres. Après vient la paix. Vous êtes dans une secte, réveillez-vous. Nous sommes au 21e siècle. Mais, les choses vont changer rapidement. Et le Christ nous dit de nous tenir prêts. Et nous devons nous préparer à des événements certains, se réalisant à des dates incertaines ou inconnues. Les catastrophes auront lieu soudainement. Mais des signes avant-coureurs sont généralement détectables pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre le message de la sentinelle. C'est dans ce contexte que nous pouvons maintenant nous reporter à Matthieu au chapitre 25. Matthieu chapitre 25, nous allons lire les versets. Matthieu 25, nous allons lire les versets 1 à 13, et je vous conseille de mettre un signet, parce que à mesure que je vais lire les versets, nous allons nous reporter dans d'autres parties des Écritures. Alors, Matthieu 25, verset 1. « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Alors, dans le début de cette parabole des 10 vierges, Jésus décrit qu'elles possédaient chacune une lampe. Je veux préciser qui sont les vierges qui vont à la rencontre de l'époux avec leur lampe ayant un peu d'huile. La parabole des mines ou des talents nous donne l'explication. Les vierges sont celles qui ont reçu le degré initial de Saint-Esprit donné lors de la conversion, comme nous l'avons lu dans l'extrait du livre de M. Armstrong. Mais elles sont différentes, ces 10 vierges. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ce verset 2 nous montre qu'il y a une distinction entre les 10 vierges, car 5 sont folles et 5 sont sages. Et nous verrons dans quelques instants ce qui les distingue. Mais vous savez, bon nombre d'entre ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui attendent le retour du Messie. mais la parabole, ainsi que d'autres passages, montrent que beaucoup d'entre eux ne recevront pas la récompense qu'ils anticipent. Comme nous le verrons, ils seront choqués et surpris. Mais c'est ce que la Bible déclare. Versets 3 et 4 maintenant. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors, cinq de ces vierges étaient sages, et les cinq autres étaient folles. Les sages emportèrent de l'huile supplémentaire dans des vases pour leur lampe, mais pas les folles. Cinq d'entre elles se préparèrent pour le repas des noces, mais les cinq autres ne firent pas suffisamment d'efforts pour être prêts. Nous comprenons que cette parabole est un récit allégorique qui comporte un enseignement essentiel sur ce qui va se produire un peu de temps avant le retour de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes tous familiers avec cette parabole, mais celle-ci change-t-elle mon comportement et le vôtre? Poursuivons. Dans la parabole, une lampe était nécessaire pour éclairer les vierges dans le chemin qu'elles devaient suivre. Et on voit qu'elles avaient besoin de ces lampes avec de l'huile parce que c'était comme le soir. Le psaume 119 nous indique ce qu'est la lampe. Nous allons nous reporter au psaume 119 et le verset 105. Psaume 119 et le verset 105. Un très beau psaume de David, un psaume très inspiré, qui parle beaucoup des commandements de Dieu et à quel point ils sont importants. Alors, psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans nous servir de la parole de Dieu, la Bible, nous n'avons pas de lampe pour nous guider. Chaque jour, il est fait d'avoir une lampe qui brille, nous distingue du monde qui vit dans les ténèbres. Nous allons retourner à Matthieu 25 et nous allons lire maintenant le verset 5. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ce verset décrit le retard, si on veut, de l'époux, ou le retard que nous pensons que le Christ a pris, suivi pour les vierges de l'assoupissement du sommeil, et toutes les vierges, autant les sages que les folles, s'endormirent. L'attente prolongée du retour du Christ illustre comment même les vrais croyants peuvent spirituellement s'endormir face à ce délai, perdant parfois la vigilance sur l'imminence de sa seconde venue. Si vous voulez bien, reportez-vous à Marc 13. Nous allons lire les versets 33 à 37. Marc 13. Les versets 33 à 37. Le Christ dit ici, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Il parle du temps de son retour. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. » Ça ressemble aussi à la situation de la parole des mines, où ici les serviteurs ont une responsabilité de veiller et de veiller sur la maison. Verset 35, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Verset 36. craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Et si on regarde au début du verset 33, il dit bien, veillez et priez. Le message du Christ à tous les croyants est très simple. Veillez et priez, ne dormez pas. Retournons à Matthieu 25 pour le verset 6 maintenant. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Le verset met l'accent sur trois idées principales. La première, l'arrivée inattendue de l'époux. La deuxième, la nécessité d'être prêt. Et finalement, la troisième, l'urgence d'aller à la rencontre de Christ. Alors, je vous les répète. L'arrivée inattendue de l'époux, la première. Deuxième, la nécessité d'être prêt. Et troisièmement, l'urgence d'aller à la rencontre de Christ. Nous allons nous reporter à Apocalypse 16 et nous allons lire le verset 15. Apocalypse 16 et le verset 15. Verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Si un voleur vient chez vous dans la nuit, il y a de fortes chances que vous soyez peu vêtu. Sauf si vous êtes éveillé et encore debout. Mais ici, c'est intéressant parce que ce verset fait référence à être vêtu de vêtements. Et nous allons voir plus loin de quels vêtements il s'agit. Alors que le Christ vient dans la nuit comme un voleur. Il le répète à plusieurs endroits. Il vient comme un voleur, à la surprise de tous. Retournons à Matthieu 25. Nous allons lire maintenant les versets 7 à 9. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Verset 9. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. « Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » En fait, nous voyons ici la leçon, je dirais, la plus importante de cette parabole. Quel que soit notre niveau de foi, de courage, de caractère, de conviction, de préparation, de bonnes œuvres, ou le degré de notre conversion, nous ne pouvons pas en prêter. Nous ne pouvons pas prêter notre foi, notre courage, notre caractère, nos convictions, notre préparation, nos bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas en prêter, ni en partager, ni en donner aux autres, ni en emprunter à quelqu'un d'autre. Je répète ce point. Ni en emprunter à quelqu'un d'autre. Ce sont des qualités strictement personnelles qui font partie du temple spirituel que chacun bâtit en coopération avec Dieu. Nous allons voir cela dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons nous reporter à 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire les versets 11 à 17. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, sur le Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Alors, on peut bâtir avec différentes qualités de matériaux. Verset 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu l'éprouvera. On pourrait dire le feu de l'épreuve. Ce que le feu éprouvera, ce que l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travers du feu. Alors, il est possible d'être sauvé au travers du feu. Et c'est ce que le Christ dit aux Laodicéens. Vous connaissez ces Écritures. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous pourriez marquer l'Esprit de Christ habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, il est sanctifié, et c'est ce que vous êtes. Les épreuves testent ce que nous bâtissons, et si le test à la fin est positif, nous serons récompensés. S'il est négatif, nous perdrons notre récompense. Et nous pouvons aller même jusqu'à perdre notre salut si on ne se rattrape pas. Ainsi, la façon dont nous construisons et les matériaux que nous utilisons, tout cela est très important. Nous devons bâtir avec soin et choisir nos croyances et actions avec sagesse. C'est pourquoi il est important de nous poser certaines questions personnelles. Ai-je trouvé la vérité? Ai-je trouvé la vérité? Est-ce que je suis dans la bonne église? Mon esprit a-t-il été ouvert pour comprendre cette vérité? Et est-ce que j'agis en conséquence? Si c'est le cas, réalisons que c'est une occasion exceptionnelle qui nous est donnée. Une occasion exceptionnelle qui est donnée à peu de gens aujourd'hui. Nous le savons, n'est-ce pas? Vous savez, dans l'Église, on est environ, dans l'Église Dieu vivant, on est environ 12 000, 12 500, peut-être 13 000, je ne sais pas le chiffre exact. Mais mettez ce petit chiffre par rapport à 8 milliards d'habitants sur la face de la Terre. Vous faites partie de ces 12 000 ou 13 000 personnes, je n'ai pas le chiffre exact. Alors, investissons-nous massivement notre cœur, notre esprit et notre énergie dans cette perle de grand prix du royaume qui nous est offerte. Où se peut-il que nous ayons la démangeaison d'entendre des choses agréables sur Internet, de nouvelles vérités, des complots et des fables? Avons-nous soigneusement, je dis bien soigneusement, prouvé ce que nous croyons? Ou suivons-nous nos sentiments, nos amis ou un conjoint qui est à l'Église? Recherchons-nous premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Ou avons-nous d'autres priorités plus importantes dans notre vie? Nous efforçons-nous de croître intimement avec Dieu pendant qu'il se trouve? Ou reportons-nous à plus tard les décisions les plus importantes dans notre vie? J'aimerais que nous nous reportions à Ésaïe 55. Ésaïe 55, les versets 6 et 7. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et ailleurs dans les Écritures, on voit ce qui est écrit à maintes reprises, « Car sa miséricorde dure à toujours pour ceux qui s'approchent de lui et qui se repentent. » Anticipons-nous avec impatience et nous préparons-nous activement pour le retour du Christ. Ou espérons-nous jouir le plus longtemps possible des plaisirs éphémères de ce monde en nous laissant étouffer, si on veut, par les soucis, les richesses et les plaisirs éphémères de la vie. Vous savez, Jésus a dit « notre trésor, notre investissement en argent, en temps et en énergie sera là où est notre trésor. Notre trésor est là où est notre cœur, est là où nous mettons les énergies. » La parabole indique que nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu avec les efforts d'un autre chrétien. Nous devons faire nous-mêmes les efforts. Retournons à Matthieu 25, maintenant, le verset 10. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, on parle ici des vierges folles, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. La parabole ici laisse entendre que les vierges folles seraient allées acheter de l'huile, représentant le Saint-Esprit. Nous est-il possible d'acheter du Saint-Esprit? Peut-on acheter du Saint-Esprit? Voyons l'exemple de quelqu'un qui voulait acheter du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Nous allons les apporter à Acte 8. Acte 8. Et cet homme se méprenait sur la façon d'acquérir le Saint-Esprit. Acte 8. Nous allons lire les versets 18 à 20. Acte 8. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Vous savez, il n'a pas demandé d'avoir l'imposition des mains. Il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Verset 20. Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Vous savez très bien que Dieu donne son Saint-Esprit sous certaines conditions. Premièrement, à ceux qui l'appellent. Deuxièmement, après avoir reçu cet appel, à ceux qui se repentent. Et troisièmement, à ceux qui se font baptiser par immersion et reçoivent l'imposition des mains, comme nous venons de le lire, l'imposition des mains d'un véritable ministre de Dieu. Et finalement, à ceux qui continuent de lui obéir. Les trois premières conditions sont, je dirais, sine qua non, pour recevoir le Saint-Esprit, et la quatrième, pour le conserver et en recevoir à chaque jour, la demander à Dieu à chaque jour, cette puissance du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi les vierges sages peuvent-elles entrer dans la salle des noces? Nous allons le voir dans Apocalypse 19, versets 7 à 9. Apocalypse 19. Et c'est un moment très spécial qui nous fait rêver. Apocalypse 19. Versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Mais notez, son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. et verset 9. L'ange me dit, écris, et regardez cette belle promesse. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et on pourrait rajouter, ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau et qui se sont préparés, comme nous l'avons vu dans les versets précédents. Les vierges qui se sont préparées se sont revêtues d'œuvres justes et elles ne marchent pas nues. Elles ne sont pas dans la honte. Elles ont grandi dans la compréhension de la vérité. Elles ont appris à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elles ont bâti un caractère chrétien fort et solide. Elles ont surmonté les épreuves. Elles sont restées fidèles et elles ont enduré jusqu'à la fin. Maintenant, examinons davantage, c'est important, qui sont les vierges sages et pourquoi Christ les qualifie de sages. Jésus explique que les sages sont celles qui ne se contentent pas d'écouter. Elles ne se contentent pas d'écouter ses enseignements, mais ce sont celles qui les mettent réellement en pratique. Allons dans Matthieu 7. Nous allons nous reporter dans Matthieu 7, les versets 24 à 27. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, entend les paroles de Christ, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, qui a bâti sa maison sur Christ. Verset 25. La pluie est tombée, les terrains sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Alors, toutes sortes d'épreuves vont nous frapper, comme c'est indiqué ici, en parlant de torrents, des vents, etc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, que le Christ dit, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les terrains sont venus, les vents ont soufflé, et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Dans ces quatre versets, Jésus-Christ nous montre la différence entre les vierges sages qui construisent sur le roc, sur Christ, et les vierges folles qui bâtissent leur maison sur du sable, sur des fables. Ils perdent de vue les principes bibliques fondamentaux qui devraient éclairer leur chemin dans la vie. Nous devons être le temple de Dieu, tant au niveau individuel que collectif, et nous devons appliquer tous les principes et les commandements de la parole de Dieu. Laissez tomber les conspirations, les théories farfelues de noms sacrés et les politicailleries de ce monde. Ce ne doit plus être notre monde. Ce n'est plus notre monde. Point final. Revenons à Matthieu 25, les versets 11 et 12. Versets 11 et 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, on parle ici des folles, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais elle répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Christ termine la parabole en disant aux vierges folles, « En vérité, je ne vous connais pas. Pourquoi le Christ ne les connaît-il pas? » Premièrement, ces vierges folles sont en retard. Allez dans Hébreux 4. Nous allons lire les versets 1 et 2. Hébreux 4, versets 1 et 2. Et ces paroles s'adressent à nous aujourd'hui. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, et pour nous il s'agit d'un repos éternel dans le royaume de Dieu. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, ces vierges folles sont venues trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Alors les vierges folles n'avaient pas la foi. La parole de Dieu ne trouve pas de foi vivante chez les vierges folles pour réagir à la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de se préparer pour les noces de l'agneau. Les vierges folles n'ont pas seulement échoué techniquement en arrivant en retard, mais parce qu'elles n'avaient pas pris au sérieux la préparation intérieure avant l'arrivée de l'époux. En fait, Jésus déclare que les vierges folles ou insensées entendent, mais ne suivent pas la parole de Dieu, ne produisent pas de bons fruits. Allons dans Matthieu 7. Mais cette fois-ci, nous allons lire les versets 19 à 23. Matthieu 7. Les versets 19 à 23. Verset 19. Toute arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupée et jetée au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, c'est Christ qui a permis que ces choses-là se fassent, mais eux n'étaient pas impliqués comme tels. Verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui pratiquez le mal ouvertement, qui refusez d'obéir à mes commandements. » Les vierges folles font ce qu'elles pensent être bon, y compris certaines bonnes œuvres à leurs yeux, mais elles ne font pas ce que Jésus-Christ leur demande. Elles inventent toutes sortes de prétextes et d'excuses pour dire que certains commandements, principalement le sabbat, et les enseignements donnés dans l'Ancien Testament ne s'appliquent plus de nos jours. Tout est une question de grâce et de croire à Jésus-Christ. Si nous ne faisons que croire en Dieu, nous n'avons même pas une longueur d'avance sur le diable et ses démons. Reportons-nous à Jacques 2. Nous allons lire les versets 19 et 20. Jacques 2, versets 19 et 20. Voici ce que Jacques avait écrit aux tribus d'Israël dans la dispersion. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres, sans l'obéissance, est inutile. Il ne s'agit pas seulement de dire « Seigneur, Seigneur, je crois en toi ». Il s'agit d'obéir et de servir Dieu, de se soumettre et de s'abandonner à Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Si nous croyons vraiment Dieu, je répète, si nous croyons vraiment Dieu, nous allons nous soumettre à lui. Oui, croire Dieu, c'est lui obéir. À ceux qui s'obstineront à faire comme il leur plaît, Jésus déclare dans Matthieu 7, verset 23, que nous avons lu, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui faites vos quatre volontés et non la volonté de mon Père qui est au ciel. » Voici maintenant une question pour chacun d'entre nous. Où serons-nous lorsque la porte de la salle des noces sera fermée? Où serons-nous, vous et moi, lorsque la porte des salles des noces sera fermée? Serons-nous assis à l'intérieur avec Jésus-Christ et les héros de la foi, ou serons-nous dehors, désillusionnés, fortement désappointés et exclus définitivement par le Christ? L'un des buts de la parabole est de nous faire réfléchir à cette question. Et je la répète, où serons-nous? Où serons-nous? Dans la salle des noces ou cognant à la porte? Luc 21, nous allons lire les versets 32 à 36. Luc 21, versets 32 à 36. Verset 32. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors s'il y a des gens qui doutent de la parole de Dieu, le Christ nous confirme que tout ce qu'il a inspiré dans la Bible va se réaliser. Verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent. Par quoi? Par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Réalisez-vous que ça vient comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme à la première résurrection. Il existe ici deux types de salut, un physique et l'autre spirituel. Il faut prier pour être jugé digne d'échapper ou d'être sauvé physiquement de la grande tribulation. Deuxièmement, de nous présenter finalement devant le Fils de l'homme à son retour. Le Christ nous met en garde contre ce qui peut nous arriver, la tendance de nous endormir ou de nous asseoir sur nos lauriers, sur ce que nous avons déjà réalisé. Les avertissements répètent sans cesse que la tendance à la fin des temps serait de ralentir et de perdre tout sens de l'urgence. Nous devons nous concentrer sur ces avertissements, car ils nous sont, vous et moi, destinés. Nous devons voir quelle est la tendance probable et comprendre que cela ne doit pas nécessairement nous arriver, nous affecter. Cette époque va être la plus propice à la production de laodicéens. Nous avons une société tiède, édulcorée, et l'Église a toujours eu tendance à refléter la société qui nous entoure avec ses tendances et ses problèmes. Comme expliquait déjà M. Weston dans un sermon, la courbe de la société est comme ça. Est-ce que la nôtre est juste un petit peu plus haut, ou si nous avons une pente ascendante? Dans l'observance des commandements de Dieu, dans la voie de Dieu. Notre société est une société libérale, tiède, édulcorée. Nous devons nous méfier de ses influences. En conclusion, je vous répète ce que je vous disais plus tôt. Sommes-nous tous familiers avec cette parabole? Nous le sommes. mais celle-ci change-t-elle mon comportement et le vôtre? C'est la question que nous devons nous poser, car l'issue finale n'est pas du tout la même. La parabole des 10 vierges contient des leçons extrêmement importantes, pertinentes et spécialement destinées à ceux qui vivent à la fin des temps. Voyons finalement ce qu'il nous est dit alors que nous sommes dans l'ère de Laodicée. Reportons-nous à un dernier passage dans Apocalypse 3. Nous allons lire les versets 15 à 19. Apocalypse 3, versets 15 à 19. « Je connais tes œuvres. » Et Dieu nous connaît. Il sait exactement ce que nous faisons. On ne peut pas jouer avec Dieu. « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Verset 16. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, et remarquez la fin, aveugle et nu. Et les Laodicéens ne voient pas leur condition, ils ne voient pas qu'ils sont nus. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. » Verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et remarquez la phrase suivante qui est très importante. « Aie donc du zèle et repens-toi. » Aie donc du zèle et repens-toi. Voyez-vous, les Laodicéens sont des gens convertis qui ont reçu une mesure du Saint-Esprit à leur baptême. Mais il leur manque deux éléments essentiels, le zèle et le repentir continu pour se voir tels qu'ils sont et changer. Ils sont convertis, mais tièdes. Les Laodicéens ne sont pas zélés et véritablement conquis par Dieu. Est-ce que vous et moi, nous sommes conquis par Dieu? Il faut s'analyser. Il faut regarder. Demander à Dieu qu'il nous donne la possibilité de voir et de voir si nous sommes nus sur certains points. Dieu a inspiré tous ces avertissements dans notre intérêt, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que nous fassions partie de ses prémices dans son royaume à venir. Mes amis, nous devons tenir compte des avertissements et retenir les leçons de la parabole des 10 vierges pour ne pas perdre notre récompense. Mais surtout, il faut être zélé et conquis par Dieu. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.